Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien quadrillé par le coach, je sais.
Si j'aurais marqué mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur déjà. Allez, décide, comme je l'ai dit l'autre fois, je serais au Real.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Timothée Mémon.
De retour dans l'After, dans une vingtaine de minutes, on sera avec Julien Laurence en Première Ligue. On va parler évidemment du championnat anglais, il y a de nombreux sujets à aborder ce soir. On parlera également de l'actualité de la journée. Avant cela, on va descendre un petit peu dans les divisions et vous parler du National, avec l'arrêt des compétitions. Le National, qui est un championnat à 18 clubs, verrait en l'état être relégué le Gazélec et Toulon, qui sont actuellement 17 et 18e de ce classement. Le Gazélec, qui est un club avec une licence pro, là aussi il faut recadrer un petit peu les choses, vous expliquer un petit peu cette espèce de zone d'ombre qu'il y a sur le championnat de National. Le championnat de National, c'est un championnat avec des équipes amateurs et des équipes descendues de Ligue 2 qui ont tous une licence pro. Donc, vu que c'est un championnat amateur, il est géré par la Fédération Française de Football, mais les clubs professionnels sont sous la houlette de la Ligue de Football Professionnel, ce qui crée un espèce de mélange des genres qui est parfois pas toujours facile à comprendre. On est avec Christophe Charrère, directeur général du Gazélec Ajaccio. Bonsoir Christophe.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Bonsoir Christophe. Bonsoir Christophe.
Alors vous allez le comprendre messieurs, on est avec un directeur général du Gazélec forcément inquiet. Christophe, expliquez-nous un petit peu la situation et on parlera ensuite du remède que vous proposez pour essayer de sauver le Gazélec.
Bien, je vais expliquer la situation. Aujourd'hui, concrètement, on subit de plein fouet la crise sanitaire mondiale du Covid-19. Et le championnat s'est arrêté subitement pour nous un 6 mars, à 9 journées de la fin du championnat. Nous étions et nous sommes toujours 17e sur 18, avec 9 matchs à jouer, donc 27 points potentiels à prendre, des confrontations directes. Et nous étions à 5 points du premier non relégable. Et tout s'est arrêté. Et potentiellement, aujourd'hui, on est plus que dans la charrette, puisqu'on a deux pieds presque dans le National 2.
Alors, on a entendu parler de la possibilité d'une Ligue 2 à 22 équipes, ce qui permettrait d'éviter les descentes de Ligue 2 en National et quand même d'autoriser l'accession de deux équipes de National en Ligue 2. Vous, ce que vous souhaiteriez, c'est que le National, qui est un championnat à 18, eh bien, fasse exception comme la Ligue 2 et passe à 20, ce qui permettrait de sauver Toulon et vous-même le Gazélec.
Ouais, parce que Christophe, le truc qu'il faut dire, c'est que si jamais vous descendez, le Gazélec descend, il perd son statut pro.
En plus, oui. Alors, c'est pour ça. Revenir un peu, oui, exactement. Ce que vient de dire Timothée, je reprends, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un championnat de Ligue 2 à 20 clubs et on a un championnat national à 18 clubs. Il faut savoir déjà que le championnat national, c'est en plus de la spécificité d'avoir des clubs pro et amateurs. C'est le seul championnat d'Europe semi-professionnel avec 18 clubs et 4 descentes. Donc déjà, c'est une première particularité. Ensuite, concernant les potentiels gels des descentes, ce que aujourd'hui proposent certains clubs de Ligue 2 et qui va être voté en AG lors de l'AG de la Ligue le 20 mai prochain, concrètement, l'objectif, c'est de dire, attention, quand on est club de Ligue 2, on est un club qui est professionnel avec une structure, avec des employés, tout ce qui incombe, un centre de formation pour certaines équipes, et donc il y a un certain budget. Aujourd'hui, un club de Ligue 2 a potentiellement en moyenne entre 8 et 10 millions de budget, et c'est vrai qu'une relégation, ça met un coup puisque les clubs perdent quasiment trois fois ce budget, excusez-moi, et on est aux alentours de 3 millions d'euros pour un club de National 1.
Plus certains contrats que tu dois continuer de payer pour les joueurs qui restent.
Ouais. Pas que les contrats, toutes les charges qui sont inhérentes au statut professionnel, parce que c'est une charte. Et donc le problème aujourd'hui, c'est que les clubs de Ligue 2 disent qu'il faut sauver les clubs parce qu'il restait 10 journées de championnat. Il y a des clubs comme Le Mans aujourd'hui, pour prendre son exemple, qui est à égalité de points avec Niort, il reste 10 journées de championnat, c'est quand même fort de café de leur dire vous descendez, et avec tous les risques qu'il y a derrière, économiques. Et donc, l'idée, c'est puisque les clubs de Ligue 2 disent attention, la bascule entre la Ligue 2 et le National 1, c'est très dangereux, il faut les sauver. Nous, aujourd'hui, en tant que club de National, alors pas moi personnellement, Gazélec Ajaccio, mais nous, club de National, souhaitons que le championnat aille à 20 pour justement sauver les clubs qui sont dans le même état d'esprit. Et c'est là où je rejoins, je crois que c'est Lionel qui a parlé concernant le statut professionnel. Effectivement, dans cette charrette aujourd'hui, des 4 clubs qui descendent, en plus du Puy et de Toulon qui sont sur statut amateur, il y a Béziers. Le Gazélec Ajaccio et Béziers qui sommes aujourd'hui statut professionnel. Et en plus, nous étions tous les deux, nous sommes quelque part dans la même galère puisque la saison passée, nous étions en Ligue 2. C'est-à-dire qu'il y a 8 mois de ça, nous étions en Ligue 2 et que potentiellement demain, on va faire une bascule de la Ligue 2 vers le National 2, perdre le statut professionnel, perdre les aides qui vont avec le statut professionnel quand on est en National 1. Et ça signifierait malheureusement, en tout cas c'est un grand danger aujourd'hui, potentiellement un dépôt de bilan. Et il faut savoir aujourd'hui qu'un club de National 1, au même titre que les clubs professionnels, nous ne sommes pas juste des sportifs qui tapons dans le ballon un vendredi soir à 11 contre 11. C'est tout un écosystème, nous sommes des PME, nous avons des budgets avec des millions d'euros. On a, en ce qui nous concerne, au Gazélec Ajaccio, nous avons une 50aine d'employés. C'est une grave crise économique et financière qui risque d'arriver si, effectivement, demain, on reste bloqué sur les positions qui sont avancées.
Voilà. Christophe, après, Christophe parlons clairement. S'il y a relégation pour le Gazélec, c'est 50 emplois. Ouais. Pour l'entreprise Gazélec Ajaccio, je ne parle même pas du club de foot, pour l'entreprise Gazélec Ajaccio, c'est 50 emplois qui, potentiellement, seraient perdus.
Tout compris, oui.
Ouais.
Ouais. Ouais, donc, ça, carrément, le dépôt de bilan, quoi.
Ouais, le dépôt de bilan et puis le retour
tu repars au niveau régional et voilà, et avec tout ce que ça encombre, avec un budget si tu peux repartir au niveau régional.
Coach, voilà. Hier tu défendais avec ferveur le fait que le football ne devait pas ni se mettre en avant mais pas non plus se rabaisser par rapport aux autres activités économiques de France. Tu comprends cette position du Gazélec qui dit nous on est une entreprise comme une autre et le président a dit pas... qu'il fallait sauver les petites et moyennes entreprises quoi qu'il en coûte, donc le Gazélec aussi.
C'est pas seulement que j'écoute, je me mets à la place du Gazélec. Et j'aimerais pas évidemment être à la place du Gazélec, mais je comprends aussi qu'on puisse quand même plaider quelque chose qui me paraît être complètement logique. On est d'accord d'une chose, c'est que c'est plus catastrophique de descendre d'une division que de ne pas monter. Donc, et quand on parle de clubs déçus, il y a une énorme différence entre celui qui monte pas, qui est déçu aussi, et celui qui descend. Donc à partir du moment où justement on fait pour moi de l'impatience d'arrêter les championnats sans attendre un petit peu, je dis pas que ça reprendra à la fin du mois de mai, mais on va voir. Je suis comme tous les Français le soir les stats, le nombre de ci, le nombre de décès, le nombre de personnes, et je m'aperçois quand même, ou alors j'ai ma télé qui marche pas, que tous les soirs on garde de l'espoir parce qu'il y a une amélioration. Donc à partir du moment où on est dans une situation exceptionnelle, essayons quand même de choisir les moins mauvaises solutions. Et la moins mauvaise solution...
Ah, on a peut-être perdu coach.
Alors, là, vas-y, Léa. Tim, j'ai une interrogation pour Christophe. Christophe, enfin, bon, tu le sais, j'ai été aussi, j'ai un petit peu entraîné à ce niveau-là. C'est une... vraiment une division un petit peu, excuse-moi le terme, mais bâtarde entre les régimes professionnels et les pseudo-amateurs. Est-ce que tu penses pas que ça serait le moment peut-être de
trancher de refaire dans un sens ou dans l'autre,
de refaire de trancher, de refaire. Moi je pense que l'avenir, parce que arrête-moi si je me trompe, Christophe, et en plus pour vous, étant à Ajaccio là-bas, tu descends de Ligue 2 en National, ne serait-ce qu'au niveau des déplacements, ça te coûte exactement le même prix, puisque tu as les mêmes divisions et tu fais sur la France entière. Ouais. Tu as les mêmes déplacements. C'est énorme, ne serait-ce que dans le budget, c'est énorme. Même si la fédération participe un petit peu, tu y es de ta tête au moins pour 10 à 15 000 euros après chaque match. C'est ça, Christophe, à peu près. Donc, est-ce que ça serait pas le moment, peut-être, d'éviter les descentes et puis de scinder ce, comme le budget, il est divisé par, enfin, il est divisé par 7 quand tu descends de Ligue 2 en National, et que ça te coûte énormément, enfin, en tout cas, le même prix pour les déplacements, est-ce que ça serait pas le moment de diviser en deux cette nationale et de refaire un autre championnat et en évitant les descentes cette année?
Alors moi je vais aller peut-être plus loin de ce que tu avances, Lionel, pardonne-moi si je te tutoie.
Non, ça me fait plaisir.
Mais en fait aujourd'hui le National 1, pour être très clair, n'a que le nom d'amateur. Le championnat National 1 aujourd'hui est géré comme un championnat professionnel. Je ne parle pas seulement pour les clubs qui sont professionnels, mais les clubs qui montent de National 2 et qui basculent dans le National 1, c'est professionnel. Comme tu le disais, effectivement, on a des déplacements. Alors, nous, on est spécifique parce que c'est la Corse, c'est particulier, on le connaît. Mais peu importe, une équipe qui monte du National 2 et qui bascule dans le National 1, elle arrête de voyager dans sa région et elle bascule dans la France entière.
Exactement.
Donc, plutôt, alors, j'ai pas trop compris ta question sur arrêter le championnat de championnat. Moi, l'idée surtout, je pense, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions, se servir de cette catastrophe aujourd'hui pour dire, aujourd'hui, le championnat de National 1 a les mêmes contraintes que les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Mmh. La seule différence, c'est les droits télé et c'est la visibilité. Pour tout le reste, c'est la même chose. Et encore une fois, on l'a vu à plusieurs reprises. Premièrement, quand le président Le Graët arrête tous les championnats amateurs et colle le National 1, tout comme la D1 féminine, aux professionnels, ce n'est pas pour rien, c'est un premier signal. Aujourd'hui, je pense qu'il faut justement se servir de ça pour dire le National 1 doit, à terme, devenir une Ligue 3 ou bien bénéficier, en tout cas, d'un statut qui serait autre que celui-ci, parce que c'est un statut qui est hybride et qui a aujourd'hui plus d'inconvénients que d'avantages.
Voilà, comme en Angleterre, en Italie, dans des pays comme ça. Où
bien entendu, aujourd'hui.
Que moi, Christophe, je ne voyais pas en Ligue 3. Je le voyais plutôt divisé en deux, diviser la France en deux, étant donné que le budget est 7 fois moins inférieur.
Ça ne changera pas grand-chose, Lionel. Ouais.
C'est énorme. Ouais, c'est énorme, les déplacements, ne serait-ce que pour les déplacements.
Non, mais tu le divises comment en deux, en diagonale, verticale, horizontale, tu auras toujours des longs déplacements.
Quand tu vas, ça t'évite d'un côté Ajaccio, ça t'évite d'aller à Lille.
Non mais je suis d'accord.
Tu vas pas la couper dans le sens de la largeur.
Quand t'es autour de Nice, j'en sais rien. Il y avait Fréjus à un moment donné, mais quand t'es Fréjus Saint-Raphaël, que t'y ailles à Bordeaux ou que t'y ailles à Lille, à la sortie, c'est même si t'as coupé la France en deux, c'est pareil, Lionel. Il faut que tu prennes un avion et c'est une heure d'avion dans les deux cas. Donc tu vas pas faire non plus 6 heures de bus, que tu fasses 6 heures de bus ou enfin.
Ah, parce que tu crois qu'en National on se déplace en avion.
Mais je te dis, mais Lionel,
c'est,
je suis en train de te dire que pour moi la solution de couper la France en deux et de faire deux poules de National par exemple, ça arrêtera pas les problématiques que cette division connaît depuis des années.
Voilà, il vaudrait mieux trancher sur le statut, soit c'est amateur, soit c'est pro, un point c'est
bien
tout.
Sûr. Ça c'est pour aider au niveau du budget, ouais. mais après tu bien sûr tu tranches au niveau des statuts.
Ouais.
Alors après tu les mets les deux pros ou les deux amateurs comme tu veux, tu tranches ce que tu veux. Mais ce que je veux dire c'est que tu peux plus rester avec autant avec un budget qui est sept fois moins fort. En National, tu perds 7 fois ton budget. Et en plus, tu dois, la plupart du temps, tu gardes tes joueurs. Parce que qui veut te prendre tes joueurs quand tu descends de Ligue 2 en National
Je suis d'accord. Après, tu vois, par rapport à
et
des,
tu perds
à des
tes meilleurs qui pourraient te refaire.
Oui, Willy, on va juste revenir un petit peu à Christophe Charrère juste pour terminer parce qu'on va manquer de temps sinon. On a bien compris Christophe Charrère, donc directeur général du Gazélec Ajaccio, que bon, vous êtes un président de club inquiet, vous êtes surtout un chef d'entreprise en grand danger. Vous en appelez à la solidarité des autres clubs de National. Pour le moment, est-ce que vous avez la sensation d'être soutenu par les clubs de National pour pour qu'il y ait un élan de solidarité qui permette de passer à ce National à 20 et d'éviter les descentes de National en National 2? Est-ce que vous vous sentez soutenu? Est-ce que vous avez engagé des discussions?
Je pensais à 20,
ça suffirait.
Non, je vais surprendre, je vais en surprendre plus d'un, et notamment Lionel, si j'ai bien reconnu sa voix. Il faut savoir qu'au sein des clubs du National, il y a de cela très longtemps, puisque maintenant ça fait 6 semaines qu'on est dans cette situation. Très vite, après une semaine d'arrêt, et au risque de vous surprendre réellement, les clubs du National se sont réunis à de nombreuses reprises, ont créé des groupes de travail bien avant les pros, bien avant tout ce qui s'est passé ailleurs. On crée des groupes de travail financiers pour la sortie de crise, pour le matelas, on va dire, l'atterrissage sur la fin de saison qui allait arriver tronquée, sur la saison prochaine également tronquée, parce que la saison prochaine, il y aura d'autres problèmes, des sponsors, etc. Aujourd'hui, on a des gens qui sont des petites entreprises. On a une zone de chalandage en ce qui nous concernant Gazélec Ajaccio, qui est dans le pays ajaccien. On n'a pas de sponsor qui vient national nous aider. On a des petites entreprises qui nous suivent et qui sont aujourd'hui dans la tourmente et qui, dès la saison prochaine, déjà cette année, n'ont pas pu régler ce qu'ils nous devaient. Et on ne peut que comprendre. On leur a dit, bien entendu, on comprend, c'est normal, on fera autrement. Sauf que quand on a plusieurs entreprises, qu'on arrive à une dizaine qui nous disent, écoute, les 20 000 qu'on te doit, on ne pourra pas, etc., on comprend, mais ça ne comble pas et ça crée des problèmes. Et du coup, je me suis perdu, je m'excuse. J'étais
là-dessus. Vous avez créé les groupes de...
Ah voilà, donc voilà, on était sur les groupes de travail exactement. Donc on parlait des problèmes financiers et des scénarios de descente et d'arrêt du championnat. Et très tôt, on s'est positionné où les clubs nationaux avaient proposé de monter, en cas d'arrêt du championnat, de monter le troisième qui jouerait des barrages, la montée des quatre clubs qui seraient champions de National 2 et proposer également le gel des descentes pour passer à 20. Alors ça, c'est des propositions qui ont été faites, qui ont été proposées donc directement au COMEX, en tout cas, qui ont été remises à la DCN, à la direction des compétitions et sur le bureau de Noël Le Graët. Aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'il faut qu'on refasse un point à ce niveau-là, mais en tout cas, la réalité, c'est que la majorité des clubs nationaux ont pris conscience très rapidement qu'il y avait un problème. Et oui, il y a une solidarité qui s'est créée. Maintenant, aujourd'hui, la balle n'est pas dans le camp, malheureusement, des clubs du National, mais c'est tout en haut que ça se joue, aussi bien au COMEX que suite également à la prise de position des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 par rapport à est-ce que la Ligue 2 peut potentiellement passer à 22. Si oui, ce sera acté majoritairement, elle passera à 22, alors éventuellement, on aura une chance, nous, de passer à 20. Mais tout ça, c'est pour l'instant très hypothétique.
Ouais, mais parce que justement, alors bon, je ne sais plus compter, je pensais que pour qu'il n'y ait pas de descente et qu'il y ait 4 montées, ça faisait 22 quand même.
Parce que c'est une division à 18 au départ.
Au départ, on est 18.
Eh bien, 18 et 4.
En fait, Roland, il y a 4 facteurs. Il y a à chaque fois des clubs qui descendent de Ligue 2 et des clubs qui montent de National 2. Ça fait 2 facteurs. Et ensuite, il y a ceux qui montent de National et ceux qui descendent. Donc, on va faire un calcul simple. Au départ, on est 18. Il y en a 2 qui montent, on n'est plus que 16.
Il n'y en a pas qui descendent.
Il n'y en a pas qui descendent.
Donc, on reste 16.
Exactement. Il n'y en a pas qui descendent non plus de chez nous. On reste 16. Et il y a les 4 qui montent de National 2. Donc, on serait à 20.
Voilà. Là,
vous n'êtes pas perdu.
Non, évidemment que je comprends mieux. Et ce que je disais, mais ma ligne a été coupée, c'est qu'il est incontestable, et ça, tout le monde le sait, que c'est beaucoup moins grave de ne pas monter que de descendre pour un club, quelle que soit la division. Donc, je pense que là, cette formule, avec des gens compétents et lucides, cette formule, pour moi, elle devrait passer. Parce que c'est une intersaison exceptionnelle. Eh ben la saison qui viendra derrière après cette intersaison exceptionnelle, eh ben qu'il faille être 22 dans une division, c'est quand même moins grave que la mort de club.
Exactement.
Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Ouais. Et justement, on espère que le bon sens ira. Comme vous l'avez dit, c'est quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui et ça appelle des mesures exceptionnelles. Et il faut être courageux pour prendre des décisions. Il faut être solidaire. La solidarité, ça a un sens. Et si aujourd'hui, on ne l'applique pas, il faudra arrêter de dire que le football français est solidaire, parce que de qui on est solidaire, je ne sais pas. Puisque là, en l'occurrence, il y a des clubs qui risquent... les clubs, aujourd'hui, je parle en mon nom, mais on n'est pas les seuls, qui risquent de déposer le bilan et de crever. Voilà, c'est la réalité.
Merci beaucoup. Quand je vois, excuse-moi, 30 secondes, quand je vois, on parle de chance ou de malchance, quand je vois la façon dont descend le Gazélec avec ce ciseau retourné qui arrive de je sais pas d'où là, contre Le Mans après avoir raté un penalty une minute avant, et si en plus alors que vous marchiez bien ces cinq derniers matchs, je crois que ça allait quand même beaucoup mieux, et descendre l'année d'après avec le virus. Ah, sincèrement, je pense qu'on peut quand même se réunir pour réfléchir à ces petits détails qui sont tout simplement abominables.
Merci beaucoup, Christophe Jarre, directeur général du Gazélec Ajaccio. On le rappelle, vous souhaiteriez évidemment, si la Ligue 2 reste à 22, que le National passe à 20 clubs. Cela permettrait d'éviter des descentes de National 1 en National 2, ce qui serait évidemment dramatique pour les clubs de National avec ce statut si particulier du National qu'il faudrait peut-être prendre en compte et réfléchir à l'avenir, profiter d'une certaine manière de cette crise. On parle beaucoup du monde d'après, du monde de demain. Eh bien, il faudrait peut-être un monde de demain avec un statut clair pour le National, ouais. Même si on est bien d'accord, c'est peut-être pas la priorité. Ça pourrait l'être pour le football français. 23h22, on revient dans un instant. On sera avec Julien Laurence. On va vous parler de Première Ligue dans quelques secondes. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Timothée Mémon.
23h24, de retour dans l'after, on continue à parler ballon en cette période de confinement et ça fait du bien, très clairement. On va parler à Première Ligue et qui dit Première Ligue dit l'élégant, le sémillant, Julien Laurence. Salut Julien.
Salut Timothée, salut à tous.
Salut Julien.
Alors, parle-nous un petit peu de l'actualité de Première Ligue. On a arrêté le championnat en France, c'est pas du tout le projet en Angleterre.
Non, tu as raison, et on sort d'une réunion très importante hier par vidéo bien sûr et au téléphone de tous les clubs de Première Ligue avec la Première Ligue, une réunion d'environ 4 heures hier qui a acté, ou en tout cas les clubs ont voté quasiment à l'unanimité qu'ils voulaient terminer la saison. Donc c'était même pas la reprendre pour quelques matchs, c'était la terminer. Il reste 92 matchs, donc il y a 9 journées plus deux matchs en retard à jouer, et c'est vrai que tout le monde veut la jouer. Ça, c'est la première chose. En tout cas, au niveau des clubs, on reviendra après, peut-être un petit peu plus tard, sur ce que les joueurs, eux, veulent, puisqu'on a de plus en plus d'échos, que ce soit publiquement ou plus en privé, de certains joueurs qui expriment leur crainte, voire même leur peur, la personne de Sergio Aguero, de reprendre la saison si tôt, entre guillemets. Mais au niveau des clubs, en tout cas, on souhaite reprendre parce que économiquement, c'est important. On souhaite reprendre aussi, on en a souvent parlé dans l'émission, parce que le gouvernement et les autorités britanniques, anglaises, poussent aussi pour que le football reprenne. Le week-end dernier, rappelez-vous, on a eu le secrétaire d'État au sport britannique qui a dit qu'il faut que le football reprenne le plus vite possible, ce qui contraste énormément, notamment avec ce qu'on a vécu en France, où les autorités clairement étaient plutôt négatives, entre guillemets, on va dire, à la reprise du football. Ici, c'est pas du tout le cas. Donc c'est vrai que la locomotive, elle vient d'en haut, même si les joueurs, comme je vous le disais tout à l'heure, sont pas tous trop chaud non plus, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, on veut reprendre. Alors pour l'instant, l'idée de ce qu'on m'a raconté par rapport à la réunion d'hier est un petit peu... Alors, il y a des points un petit peu flous, mais il y a des points qui sont plutôt clairs, et notamment que la saison se terminerait sur des terrains neutres, c'est-à-dire que 9 stades de Première Ligue ont été choisis, et à huis clos, bien sûr.
On peut leur prêter les stades, nous.
Alors Gary Neville, tu sais, coach Gary Neville, donc l'ancien joueur de Manchester United de l'Angleterre, qui est aujourd'hui un grand consultant, lui a proposé de finir la saison dans un championnat, dans un pays à l'étranger, qui ne serait pas touché par le virus. Donc nous, malheureusement, ça nous élimine, puisqu'on est touché par le virus en France. Mais voilà, il avait pensé à cette possibilité-là.
Oui, sur la gauche de la France. sur la gauche de la France.
Oui, c'est vrai.
On est tous en vert, là, donc à gauche.
Mais, en Bretagne, c'est ça, c'est la partie verte, Bretagne, oui, ouais. C'est la partie verte.
Justement, sur... puisqu'on est en vert, puisqu'on est en vert côté gauche, qu'on reste en vert, on n'a pas besoin de voir des gens qui arrivent d'un pays qui bientôt, dans, d'ici, non mais l'Angleterre, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé ou je ne sais pas ce qu'ils ont bu, les Anglais, mais oh, les gars, regardez les chiffres. L'Angleterre, c'est en passe de devenir le pays européen le plus touché. Et que ils envisagent, finalement peut-être on va peut-être devenir numéro un en termes de décès. Viens, on va reprendre le football. Mais je pense, comme Roland, que oui, la France a exagéré certainement en arrêtant trop tôt, en prenant une décision, on va dire trop tôt. Mais je me dis, mais les Anglais, je comprends pas, ils sont passés. Il y a un mois de ça qu'ils
nous disaient. Pourtant, le Premier ministre devrait être sensibilisé au sujet, quoi.
Ouais, mais le Premier ministre, quand tu vois Boris Johnson, ce qu'il a fait au départ, il voulait pas de confinement. Après, finalement, il fait un confinement. Lui-même tombe malade, donc il se rend compte quand même que c'est quand même une merde cette chose-là, et que après on nous dit on va reprendre. Et j'en sais rien, pour l'instant déjà, essaye de faire comme dans tous les autres pays, essaye de faire que, on va dire, les contaminations et les décès et les tensions dans les hôpitaux, parce que nous, on a beaucoup dit notre système de santé en France, oui, il a été saturé, mais comparé au NHS, notre système de santé, il est fantastique. En Angleterre, ce qui se passe dans les hôpitaux publics, c'est pire que ce que nous on a eu en France, et qu'aujourd'hui ils se disent on va reprendre. Je sais pas. Je trouve que, alors je veux pas dire que ça manque de d'humanité, mais je crois sincèrement que le peuple anglais aujourd'hui doit avoir autre chose en tête que de vouloir reprendre le football.
Oui, il y a un petit peu.
Évidemment que je plaisante quand je dis qu'on emprunte les stades.
Julien.
Non, mais par contre, ce que dit Willy, évidemment, je le disais tout à l'heure, dans le sens qu'on regarde tous le soir à 19h, à partir de 19h, les chiffres des Anglais, ils sont vraiment pas terribles du tout. Par contre, les nôtres, tous les jours ça va un petit peu mieux, donc
et tant mieux, et que ça continue.
Fait mieux, on aura peut-être des regrets.
Alors dis-moi Julien, 92 matchs à jouer sur 8 stades, comment ces stades seraient choisis? Tu nous confirmes que ce serait à huis clos?
C'est ça, tout à fait. Donc à huis clos, ça commencerait le 12 juin
et avec des dispositions particulières pour les joueurs aussi.
C'est ça, donc avec des tests pour les joueurs, pour le staff, pour les gens qui seront dans les stades à huis clos. Il y aurait 10 stades en tout, 9 de première ligue, Manchester City, Manchester United, Arsenal, le stade de West Ham, Southampton, et quelques autres, plus un autre stade dont on connaît pas encore l'identité, qui ne sera pas Wembley mais qui peut-être pourrait être St George's Park, là où s'entraîne le Clairefontaine anglais, peut-être, parce que la location est intéressante. Et pourquoi je vous parle de location? Parce que ces stades qui seront neutres, aucune équipe ne jouera à domicile dans ces 92 matchs, pour la simple et bonne raison, en tout cas c'est l'argument côté anglais, c'est pour éviter les rassemblements de supporters en dehors du stade, comme on l'avait vu lors de PSG Dortmund.
Absolument.
Ils pensent qu'en jouant sur un terrain neutre, ça éviterait 2000 supporters de Liverpool de venir lors du match du titre, par exemple, une équipe du bas de tableau qui se sauve à la dernière journée, ça évite 5000 de ses supporters à venir au stade alors que le match est à huis clos. C'est l'idée. Donc ces terrains neutres seront choisis puisqu'ils devront être plus ou moins à égale distance des deux clubs. Donc on va dire par exemple si Manchester City joue contre Arsenal, eh ben ils se rencontrent au milieu entre les deux, c'est-à-dire vers la région de Birmingham par exemple, peut-être dans le stade d'Aston Villa. Exactement, ce genre de choses-là. Alors le côté logistique, c'est quand même assez compliqué. On parlerait que les joueurs iraient avec leur propre voiture dans ces stades pour pas avoir à prendre soit le train, soit l'avion, soit des bus tous ensemble. Enfin, on arrive quand même à des choses assez incroyables ou assez incongrues entre guillemets pour du football, en tout cas le football comme on le connaissait avant. Mais c'est pour l'instant l'idée de la Première Ligue et des clubs de Première Ligue.
C'est-à-dire qu'ils prendraient leur propre voiture, ça veut dire qu'ils rentreraient chez eux à chaque fois.
Comme quand tu vas au stade à domicile avec ta propre voiture. Ouais. L'Angleterre est quand même moins grande et effectivement des matchs à midi. Distance, par exemple pour Arsenal et Manchester, s'ils se rencontraient à Birmingham, si je me trompe pas, Julien, tu vas me le confirmer, c'est 1h40 de route Birmingham pour aller à Londres.
Voilà, 1h, voilà.
Ok, par contre, ils rentrent chez eux, donc ils sont susceptibles, si eux sont bien, de prendre le coronavirus chez eux ou sur le terrain, admettons sur le terrain, de le ramener chez eux, voire chez eux, de le ramener sur le terrain.
C'est la question. On va y venir sur les joueurs qui craignent un peu. J'avais juste une dernière question sur ce dispositif. Julien, il y a une évidence en Angleterre, c'est que si ça reprend, Liverpool sera champion. Peut-être pas la prochaine journée, peut-être à la suivante, mais ça arrivera nécessairement. Ils ont 27 points d'avance, énormément d'avance, 25 points d'avance, alors qu'il reste 9 journées à jouer.
Et s'ils ne reprennent pas, Liverpool est champion quand même.
Et Liverpool serait champion. Comment éviter des rassemblements dans une ville qui attend ça depuis tellement d'années?
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je conçois pas que si Liverpool est champion après 30 ans d'absence et que le match, par exemple, se joue à Birmingham, comme on l'a dit, donc c'est aussi 1h30 de route depuis Liverpool. Si les supporters des Reds veulent être 5000 aller à Birmingham, ils iront, quoi qu'il arrive. Donc c'est ce genre de match-là, sur terrain neutre, pour éviter ce genre de rassemblement. Je pense qu'à un moment, ça a quand même ses limites. Je comprends très bien pourquoi, mais c'est vrai que ça aussi, c'est limite. Tu as tout à fait raison, notamment dans ce cas-là, où c'est quasiment sûr que les supporters de Liverpool, à un moment, s'ils veulent le fêter tous ensemble quelque part, ils iront, et s'ils sont 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, ils le seront.
Pas difficile à empêcher. Alors, tout à l'heure, Lionel soulevait la question de prendre le virus chez soi, de le ramener sur le terrain, ou de prendre le virus sur le terrain et de le ramener chez soi, puisque les joueurs iraient directement de chez eux au stade et du stade à chez eux, quel que soit le stade. Justement, les joueurs, eux, semblent quand même de moins en moins chauds. On en a parlé hier, souvenez-vous, messieurs, on a vu que le Kun Agüero se disait très réticent à l'idée de reprendre. Ils sont nombreux à faire part d'une certaine retenue.
Oui, tout à fait, tu as raison, ils sont très nombreux. Alors Kun, parce que lui a été vraiment le premier ou l'un des premiers à le dire publiquement. Les clubs n'ont pas fait une tribune comme ça avait pu être le cas en France, mais c'est vrai que de plus en plus les échos qu'on a, soit en on, soit en off, c'est effectivement ça, c'est que les joueurs ont peur. Les joueurs trouvent, en tout cas la plupart trouvent, que c'est très tôt de revenir à l'entraînement au mois de mai et dès début juin sur les terrains, peu importe la façon dont ça se fera, comme on l'a dit tout à l'heure, sur terrain neutre ou pas, avec ta propre voiture ou pas, peu importe. Mais c'est vrai que ça les inquiète un petit peu.
Le joueur qui n'a pas le permis ne peut pas jouer. Putain.
Ou alors il faut qu'il parte avec quelqu'un d'autre et ça. Oui, mais alors
surtout,
il faut
celui qui a pas de voiture
et on revient au même problème.
Il y en a quelques-uns qui n'ont plus.
Mais après, tu sais, coach.
Il y en a beaucoup.
On remarque.
Aussi, ouais.
C'est vrai que c'est quand il peut faire du stop.
Non, mais tu sais, je pense que ça change aussi toute l'approche de ton match. Il n'y a plus de mise au vert, il n'y a plus de, il n'y a plus le genre de rassemblement que tu pouvais avoir aussi dans le train, si tu prends le train pour aller quelque part, ou l'avion, où tu peux parler avec tes joueurs de quelques trucs sur l'adversaire, etc. Non, là, tu arriveras tous au stade ensemble à 1h30 avant, chacun avec sa voiture. Ça va être effectivement très bizarre. Mais effectivement, il y a de plus en plus de joueurs qui sont réticents. Il y a même un club dont on connaît pas encore lequel, qui n'a pas fuité, mais qui a demandé à ses joueurs de voter s'ils voulaient reprendre le championnat. On sait qu'il y a aussi des clubs, même si la majorité a voté pour la fin du championnat, il y a aussi des clubs, notamment ceux du bas de tableau, eux qui sont plus réticents, parce que ça les arrangerait aussi si la saison ne se finissait pas, par exemple, et qu'il n'y avait pas de relégation et de promotion. Mais tu sens quand même qu'il y a cette réticence au niveau des joueurs. Certains, et si Kun Agüero te dit qu'il a peur, qu'il n'a pas envie de jouer, c'est compliqué quand même. C'est pas n'importe qui, Kun Agüero.
Et puis certains joueurs un peu fantasques, ils peuvent venir en moto. Pourquoi obligatoirement en voiture? En moto, c'est bien.
Oui. Sans écharpe.
C'est ça, va plus vite peut-être aussi. Alors, pas d'embouteillage.
Ils sont toujours confinés. Excuse-moi, Juju. Excuse-moi, Tim. Et les Anglais, parce que là, j'ai du mal à comprendre. Ils sont toujours confinés? Ou pas?
Oui, toujours. Toujours confinés. Et le 4 mai. Non, toujours confinés. Et le 4 mai, le Premier confiné. Ministre Boris Johnson nous dira si le confinement
s'il y a des confinements ou pas.
Aménagé ou pas, ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le gouvernement dit que le pic de la pandémie a été dépassé, comme on disait tout à l'heure avec Willy, qui connaît aussi bien la question forcément avec son épouse. Et c'est vrai qu'on semble être de l'autre côté, on semble avoir passé le plus difficile, mais ça reste quand même critique au niveau des morts, au niveau des gens qui ont le virus, même si le nombre de tests est largement supérieur à ce qu'il avait été il y a quelques jours encore.
Après, Julien, face à cette envie viscérale de reprendre le championnat de la part des clubs. Est-ce qu'on peut pas non plus, on peut pas, je pense à mon avis, s'empêcher de penser aussi que même s'ils ont eu des droits télé qui ont explosé depuis plusieurs années, qu'ils ont pris des milliards, que les clubs se sont tellement développés, moi je me pose aussi la question, en me disant s'ils veulent vraiment absolument autant reprendre, peut-être que les clubs ne sont peut-être pas aussi, je dirais aussi solides que ça pourrait paraître.
Ouais, c'est vrai, tu as raison. Ou qu'ils ont peut-être été imprudents.
Parce que là ils ont touché les droits, mais si jamais ils ne vont pas au bout, ils seraient susceptibles de rembourser le au prorata. C'est ça, des matchs non joués.
C'est ça, voilà. C'est une des questions, effectivement, dont on n'a pas encore la réponse du côté de Sky Sports et du côté de BT Sport, donc qui sont les deux détenteurs de droits ici en Angleterre, sans parler des droits à l'international, que nous avons, nous, par exemple, à RMC. Mais domestiquement, c'est vrai qu'on ne sait pas encore ce que Sky et BT pourraient faire si la saison venait à ne pas aller à son terme. Ils pourraient demander, effectivement, qu'on leur rembourse 100, 150 millions, 200 millions, peu importe. Ou ils pourraient dire, bon, voilà, on va rien vous demander, on va s'arranger pour la saison prochaine où ils auront encore les droits. Contrairement à la France, il n'y a pas de changement des détenteurs de droits la saison prochaine, donc c'est un petit peu plus facile entre guillemets à négocier, si tu veux, en leur disant bon ben on vous rembourse rien du tout, la saison prochaine on va vous donner 15 matchs en plus gratuitement, entre guillemets, où ce genre de négociation pourrait arriver. Mais c'est vrai que financièrement, si tu finis pas la saison, ça pourrait être compliqué, notamment parce que beaucoup de clubs ont la masse salariale qui est une énorme partie de leur budget. Donc si tu commences à payer ta masse salariale qui est 70% de ton budget, s'il te manque une partie de ton budget parce que t'as pas tous les droits télé, c'est vrai que ça commence à être un petit peu inquiétant au niveau du fonctionnement de ton club.
Effectivement, voilà pour l'actualité de la Première Ligue pour ce qui est de l'organisation. On voulait parler un petit peu transfert avec toi aussi, Julien, avec une première info. On en a pas mal parlé avec le producteur de cette émission, Arthur Robert, tout à l'heure. C'est Werner vers Liverpool. C'est un bruit qui circule.
Qui circule et qui s'intensifie. Mais moi, Timothée, c'est vrai que Klopp a toujours été un grand admirateur et beaucoup de gens le sont, surtout la saison que Timo Werner est en train de faire avec le RB Leipzig cette saison. Lui, ces derniers jours, a officiellement annoncé qu'il préférait aller jouer à l'étranger plutôt que de rester en Allemagne et notamment d'aller au Bayern Munich. Il a une clause dans son contrat de 60 millions d'euros qui est assez attrayante quand tu vois le genre de joueur que c'est, même dans les temps actuels. Et je sais pas ce que Willy en pense, mais sans trop me risquer, je pense que Werner à Liverpool, ça paraît quand même assez bien embarqué.
Willy,
que ça paraisse bien embarqué ou pas, ça je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais en analysant le joueur, le profil du joueur, c'est typiquement le genre de joueur qu'adore Klopp. Des joueurs capables de se donner, de courir tout le temps, de défendre, d'attaquer, de prendre la profondeur. Il adore ce genre de joueur, Klopp. Donc oui, ça me semblerait une destination tout à fait plausible pour lui. Et tu as raison, il l'a dit, il l'a redit hier, je crois, dans une interview dans un, je sais plus si c'est le Bild Zeitung ou le Kicker, je sais plus, en Allemagne, où il a dit je ne veux pas rester en Allemagne quand je vais partir de Leipzig.
C'est sûr que c'est un joueur intéressant. C'est celui qui a le problème avec le bruit, hein, c'est ça?
Oui, c'est lui qui avait eu, il a pas spécialement de problème avec le bruit, il avait eu du problème à Beşiktaş parce qu'effectivement, il avait eu des acouphènes à cause du bruit du stade du Beşiktaş, mais on peut le comprendre pour avoir vécu les ambiances européennes là-bas.
Il chante trop moins fort.
Pour Timo, faudra chuchoter une chanson pour Timo Werner. Non, la question que je me posais, Willy et tout le monde, c'est Timo Werner à Liverpool, ok, pourquoi pas, mais il y a un trio d'attaque, Firmino, Mané, et ben voilà, il m'en manque un, Salah, Firmino, Mané, Salah, qui est, semble-t-il, totalement inamovible. Alors Timo Werner, il viendrait quoi pour faire le quatrième larron? Je veux pas qu'il joue tous les trois matchs, il joue tous les trois matchs.
Oui, c'est ça justement qu'ils veulent plus faire.
Willy.
Ben oui, non, mais c'est ça.
Ce sont toujours les trois mêmes qui jouent.
Et surtout, tu te rends compte que Firmino, il a souvent des petits pépins, que ça soit au dos, que ça soit aux ischios, il a souvent des petits pépins. Sadio Mané, c'est des joueurs qui courent, mais pendant 90 minutes, tous les matchs. Et que je suis persuadé que si dans son effectif, Klopp avait des joueurs type, justement, Timo Werner, il aurait la possibilité de faire beaucoup de rotations, de faire plus de rotations. Ouais. Origi les dernières.
Aujourd'hui, c'est Origi et Shaqiri qui rentrent.
Voilà,
en
mais
général.
Origi, ouais, Origi les dernières, il a fait des trucs extraordinaires quand sur la fin de saison. Même lui, ça l'a étonné, je pense. Mais ce ne sont pas les mêmes profils de joueurs, pas du tout les mêmes profils. Et quand t'as des joueurs comme Werner, ça te permet de garder la même animation de jeu et les mêmes valeurs. Et c'est ça qui est important.
Julien, on en termine sur ces infos mercato avec une information importante. On parle d'un joueur de Première Ligue en direction du Paris Saint-Germain.
Effectivement, ouais, on parle de Wilfried Ndidi, le milieu de terrain défensif de Leicester, l'international nigérian. Le PSG, on le sait, on l'a révélé sur RMC, cherche un milieu de terrain en plus de des latéraux. Et c'est vrai que sur la shortlist, d'après ce qu'on m'a dit cette semaine, outre Timo Bakayoko par exemple ou Thomas Partey de l'Atlético Madrid, il y a aussi Wilfried Ndidi, qui a un profil très intéressant déjà par son âge, puisqu'il n'a que 23 ans et il est du mois de décembre en plus, donc il a eu ses 23 ans il n'y a pas très longtemps. Donc il a la jeunesse par rapport notamment à Bakayoko et à Partey.
Il n'est pas particulièrement grand, hein. Il est normal.
Ah si,
1,83.
Voilà, ouais. Il est flué, ouais. Après, ça va coûter une blinde. Hein.
Je pense que c'est dans les. Ouais, entre 50 millions d'euros, je pense.
Mais messieurs, Wilfried Ndidi, moi, je regarde beaucoup Leicester jouer parce que j'ai une passion pour Maddison. Je supporte Liverpool, mais mon joueur préféré, c'est Maddison. Wilfried Ndidi, moi, à mon humble niveau, et c'est pour ça que j'attends votre avis, je trouve que c'est un joueur limité, qui a un coffre énorme, qui récupère beaucoup de ballons, mais qui en perd énormément. Est-ce que ça vous semble être un joueur à hauteur du projet Paris Saint-Germain ?
Ben disons que si on fait une comparaison, avec Gueye, est-ce qu'il est supérieur à Gueye ?
Par exemple ?
C'est pas le même profil.
C'est plus défensif là. Hein. C'est pas un joueur qui va se projeter avec le ballon. C'est un joueur, même s'il a marqué notamment à Chelsea cette saison.
C'est un vrai 6, mais en même temps, y a-t-il un vrai 6 dans l'effectif de Paris aujourd'hui ?
Non, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un joueur comme lui.
Lionel, ouais, tu imagines ce joueur là, Wilfried Ndidi, est-ce que d'abord tu l'as vu un petit peu jouer, est-ce que
Paris? Non, moi je suis pas pour le PSG, je suis pas trop fan. Enfin moi je suis bloqué sur un joueur qui a peut-être pas trop le même profil mais ça me ferait chier s'il partait à l'étranger, qui va coûter certainement plus cher, mais moi c'est Camavinga pour le PSG. Et pour moi, il en a un dans chaque jambe. Camavinga, c'est nettement au-dessus. Ouais, ah ouais, c'est nettement au-dessus.
Alors, je comprends pas. C'est très fort cette saison en Première Ligue. Hein. C'est le meilleur milieu de terrain défensif de la Première Ligue cette saison, sincèrement, sans aucun doute. Plus que.
On l'a même pas mis dans notre chapeau.
Plus qu'un.
Juju.
Mais non, moi je l'ai mis dans mon chapeau, hein, parce que si, sincèrement, il sera dans l'équipe type de la Première Ligue, il y a aucun doute là-dessus. Sincèrement, il a été vraiment vraiment très très bon cette saison, et si Leicester est à la place qu'il est, c'est aussi en partie grâce à lui, je pense. Même si Timothée n'est pas trop d'accord avec moi, mais
ouais, t'allais le dire. En plus, c'est un joueur que je trouve effectivement intéressant, mais quand on voit que le Paris Saint-Germain recrute presque systématiquement des joueurs techniques, même s'ils sont dans des registres défensifs, des joueurs techniques avec une certaine vision à la relance, je trouve, à mon humble avis, qu'Ndidi est un peu limité sur ce point-là, mais mon avis importe peu. En revanche, celui de Malcolm, qui est supporter du Paris Saint-Germain, qui nous a appelé, va compter. Salut Malcolm.
Salut la bande, comment allez-vous ?
Il y a trop de prénoms, désolé,
j'arrête pas à me souvenir tous les prénoms.
C'est pas grave, le tout c'est de retenir le tien, c'est Malcolm, comme la série, pas comme le joueur.
Plutôt comme Malcolm X, parce que je suis né bien avant la série.
Ah, plutôt comme Malcolm X, exactement, c'est une belle référence aussi. Alors Ndidi partait, Bakayoko, t'as une préférence, on parlait d'Ndidi par exemple, est-ce que c'est un joueur qui te semble dans le profil ?
Ndidi, moi c'est bête, mais j'ai pas suivi la saison de Leicester. Et du coup, alors je sais qu'ils ont fait une bonne saison, mais j'ai pas trop suivi. Et donc du coup, je sais pas trop me positionner. Partey, bah j'aime beaucoup, de l'Atletico. Et Bakayoko, j'en veux pas. C'est Bakayoko. Bakayoko, je suis encore vexé de ses propos où il disait qu'il n'irait pas dans une équipe qu'il a déjà battue. Et en plus, il est pas si bon que ça maintenant. Et dans le duo de Monaco, c'était Fabinho qu'il fallait prendre et pas lui. Donc au final. Pas fan de Bakayoko.
Et Malcolm, tout à l'heure, Lionel émettait la possibilité Camavinga. Alors évidemment, Paris Saint-Germain va devoir faire face à...
J'en sais Camavinga, c'est qu'on fait un peu comme avec tous les jeunes en France. Alors oui, il est bon. Mais là, on ne le vend... Alors j'aime beaucoup Camavinga, il sera un grand joueur. Mais calmons-nous. Là, le PSG va certainement aussi se prendre la titulaire. Est-ce que Camavinga, tu le mets titulaire sur le PSG? Je ne suis pas sûr. Pour l'instant, il faut peut-être encore le laisser un petit moment à Rennes et après qu'il aille dans un grand club. Mais pas tout de suite.
Ouais, moi, je pense aussi. Pour Paris Saint-Germain, après, ça me paraît un peu tôt quand même.
Après, Roland, toi, je sais que t'aimes beaucoup Camavinga, mais si t'as 50 millions à mettre sur Ndidi, tu préfères les mettre sur Ndidi ou sur Camavinga?
Moi, je préfère les mettre sur Camavinga. Il y en a un qui a 20 ans, l'autre qui a 23.
Ndidi, t'as pas une autre question?
Il a 18 ans. Non, mais il a 18 ans.
Je les mets quand même sur Camavinga.
Moi, je les mets sur Camavinga parce qu'il y a une
grosse pression. Camavinga, si Camavinga, de toute façon, il risque de rester à la Rennes. Et si jamais ils vont le vendre, ça ne sera certainement pas à 50. S'il faut citer la Ligue des Champions, il ne partira pas à 50. Il partira beaucoup plus cher.
Oui, mais surtout,
il y a la concurrence de clubs contre qui le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas beaucoup de clubs contre qui le Paris Saint-Germain ne peut pas discuter. Mais si c'est le Real, par exemple, ce sera compliqué. Willy, je t'ai coupé la parole.
Non, c'est pas grave. Après, moi, j'adorerais que le PSG préfère prendre Camavinga pour 50, que Ndidi pour 50, simplement pour une chose, c'est que c'est de l'argent qui va rester en France. C'est de l'argent qui va recirculer dans les circuits franco-français, et c'est tout le monde qui va en bénéficier. Et aujourd'hui,
j'aimerais dire juste un truc. Est-ce que le PSG, quand il va se pointer, on va lui demander que 50? Parce que le problème du PSG aussi, c'est quand il se pointe, on lui demande toujours beaucoup plus. Et c'est aussi un des trucs où, par exemple, en France, ils achètent rarement, c'est que moi, je me souviens de l'exemple encore Hazard. Quand Hazard devait partir à l'étranger, il y avait un tarif PSG et un tarif Chelsea, Man City.
C'est vrai.
Donc au final, le PSG, est-ce qu'on va vraiment leur proposer 50 millions pour Camavinga?
Mais en plus, t'as raison, il va être plutôt plus près des 60-70 millions minimum Camavinga. Mais d'un autre pour Camavinga, je pense que s'il devait partir absolument dans un grand club, pour moi, ce serait plus facile pour lui de s'intégrer dans un grand club français plutôt que d'aller s'intégrer dans un grand club que ce soit en Italie ou en Espagne, où la culture est complètement différente et ça sera beaucoup plus difficile pour lui de s'y intégrer. Et peut-être il aura beaucoup moins de temps et peut-être il pourrait se perdre plus vite à l'étranger que s'il venait au PSG.
Merci beaucoup Malcolm d'avoir été avec nous au 32-16 et d'être venu nous donner ton avis sur la possibilité Ndidi. Merci également à Julien Laurence.
Merci monsieur.
À bientôt.
Ciao mon Juju.
Julien. Salut, à très vite. On revient dans quelques instants pour la dernière ligne droite de l'after. Quelques petites infos à vous donner pour réagir rapidement sur ces infos de la journée dans le football. À tout de suite.
RMC. L'after foot. Timothée Mémon.
De retour, 23h50, c'est les dernières minutes de l'after. Messieurs, je vais vous donner quelques informations. Vous réagissez si vous le souhaitez. J'ai d'abord trois informations qui concernent l'AS Saint-Etienne. Roland Meillet, le président du directoire de l'AS Saint-Etienne, a clairement dit qu'il ne souhaitait pas disputer la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain si celle-ci était à huis clos. Pour lui, les huis clos, c'est des matchs d'entraînement. Voilà pour l'avis tranché clairement de Roland Meillet. Il devra aussi se pencher sur la prolongation ou non du contrat de Loïc Perrin. En effet, il est en fin de contrat. Cette fin de saison, Loïc Perrin, il aurait pu terminer sa carrière sur une finale de Coupe de France, mais la situation est particulière. Résultat, il y a réflexion et concertation collégiale entre Loïc Perrin et les membres du club de l'AS Saint-Etienne. Et puis, vous le savez, cette semaine, Robert Herbin nous a quittés. Le centre d'entraînement portera son nom, ça on le savait, mais suite à une pétition sur Internet, le maire de Saint-Etienne a confirmé qu'il devrait y avoir une statue à l'entrée du stade Geoffroy Guichard, érigé au nom de Robert Herbin et surtout à l'apparence de Robert Herbin. Willy, le régional de l'étape sur l'idée d'une statue en plus du nom du centre d'entraînement.
Une statue avec son effigie ou un sphinx oui, c'est tout à fait logique. Il fait tellement partie de l'histoire de Saint-Etienne.
Le palmarès, ça fait peur. Hein.
Ah ouais, c'est très rare que des gens impactent tellement des clubs comme le Sphinx à Saint-Etienne, c'est comme Suodo à Nantes. Voilà, il y en a pas 36, hein. Donc la statue, oui, il faut la mettre et il faut la même la plus grande possible.
Je pense que c'est même au dessus, Willy.
Oui, après, oui, non, mais je te parlais de, tu sais, de quand une personne impacte tellement un club.
Ouais.
Quand tu penses à Nantes, tu penses à Suodo tout de suite. Quand tu penses à Saint-Étienne, bah tu pensais à Roby. Ouais, je suis un peu trop jeune. Voilà. Mais donc, je suis d'accord, oui, à 100%. Ouais.
Voilà donc pour l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Du côté d'Amiens, on ne décolère pas. Lucas Elsner s'est une nouvelle fois exprimé dans l'Est républicain. Je vous donne sa citation. Dans le sport, le principe de base, c'est que les chances soient égales au départ et qu'elles le soient aussi à l'arrivée. Que la décision se fasse sur le terrain. Mais quand ce n'est pas le cas, on ne peut pas parler d'équité sportive. La décision a du mal à passer, hein, du côté d'Amiens, messieurs.
Ben, il faut se mettre à leur place. Donc, il y a encore 30 points à distribuer. Ils étaient à 3 ou 4 points du barragiste. C'est normal que tu aies les boules. Et en plus de ça, je ne me suis pas amusé à regarder leur calendrier, le nombre de matchs à domicile, à l'extérieur. Est-ce qu'ils ont rencontré les gros? Bon, il y a tout ce truc-là. Alors, c'est sûr que si tu es Amiens, tu as les boules.
Et d'ailleurs, tout à l'heure sur Twitter, eh bien, c'est le président Bernard Joinin qui s'est exprimé et qui a notamment appelé Noël Le Graët. Je voudrais lancer un appel à Noël Le Graët. Faites que le football en sorte grandit. Faites preuve d'humanité. Voilà les déclarations du président Joinin qui pourrait être donc dans la charrette avec Toulouse, enfin qui pour l'instant l'est, puisque le championnat est arrêté aujourd'hui et que Toulouse et Amiens sont les derniers. Une bonne nouvelle, ça fait plaisir parce qu'on était vraiment inquiet pour Junior Sambia, le milieu de terrain, qui va quitter l'hôpital. Il avait été frappé par le coronavirus, le joueur de Montpellier, effectivement, 23 ans. C'est rassurant.
Ah ben oui, c'est rassurant. Mais bon, déjà pour lui, pour Montpellier, et pour tous les footballeurs, c'était quand même un cas qui inquiétait tout le monde.
Ce qui est rassurant, c'est que lui, il rentre à la maison. Par contre, ce qui fait peur, Willy, c'est qu'il y a encore d'autres cas au niveau des joueurs allemands, apparemment.
Oui, à Cologne, le chemin cas, inverse. Oui, non, mais ça c'est sur les trois, il y a deux joueurs plus un membre du staff. C'était pas trois joueurs comme on avait pu penser au départ, ce n'est que deux, mais eux, c'est entre guillemets, c'est moins grave.
Mais encore aujourd'hui, non, il y en a.
Ils ont pas de symptômes. Oui, mais ils ont pas de symptômes. Ce sont des asymptomatiques, donc là on parle pas de d'hospitalisation, réanimation et compagnie, mais c'est sûr qu'il y a on l'a dit depuis le départ, c'est pas parce que on est joueur de foot ou qu'on est dans le milieu du foot où tout est beau, où les gens vous aiment, où vous avez votre nom partout, c'est ça immunise pas contre cette merde.
Ça touche tout le monde.
Une information, une autre concernant Chambly. Chambly, l'entraîneur du club Bruno Ludi a démissionné hier. Chambly a terminé à 10e à la place de Ligue 2. Ouais, alors Chambly sans Ludi.
Déjà que les pauvres, le papa il était parti, et là c'est la famille.
T'imagines.
Si je dis pas d'erreur, il y avait les deux fistons, l'un
les deux fistons, et le papa qui avait monté le club qui était décédé.
Ouais. Il y a un an ou deux, ouais.
Ouais, c'est ça.
Et t'imagines, il a pris le club au niveau départemental.
Ah ouais, non, c'est la réussite de Ludi avec Chambly.
C'est énorme, énormissime. Mais après, j'ai vu juste après un petit mot du président de Chambly. Je veux pas dire qu'il disait, peut-être qu'il va revenir, mais dans ce qu'il disait, c'est il espérait qu'éventuellement la vérité d'aujourd'hui, ça allait pas être celle du lendemain. Voilà, donc c'est affaire à suivre.
Ouais, effectivement, peut-être la possibilité
c'est vraiment bizarre de
convaincre Bruno Ludi de revenir.
Peut-être relativiser par rapport à tout ce qui se passe et qu'il en a peut-être marre. Il a subi aussi beaucoup de choses ces derniers temps.
Et c'est vrai que c'est un fort caractère, Bruno Ludi. On peut imaginer tout à fait qu'il ait décidé de se dire que voilà qu'il avait fait son temps et qu'il voulait se recentrer sur d'autres choses.
C'est le genre de
personnage apte à faire ça, ouais.
Usé par tout ça, peut-être aussi.
Unai Emery a évoqué une nouvelle fois la remontada face à Barcelone. L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain en veut encore à l'arbitre de la rencontre. Il y a beaucoup de détails dans ce match qui peuvent être examinés. Et si je commence par la fin, je changerai l'arbitre et c'est tout. C'est toujours pas digéré, hein, pour Unai Emery, messieurs.
Ouais, mais vaut mieux commencer par le début quand même.
plutôt que par la fin. C'est-à-dire que tu peux reprocher tout ce que tu veux à qui tu veux, mais les principaux responsables, pour moi, sont les joueurs. Après, il t'arrive ce que tu veux, des petites mésaventures, des machins, enfin des grosses mésaventures, mais tu les as provoquées de par un comportement qui, pour moi, ce jour-là, les joueurs ont manqué à la.
Ouais, mais Lionel, t'as été entraîneur. Roland aussi, moi aussi, on a été joueur.
Il y a des matchs, t'as pas le droit. Des matchs. Willy, t'as été joueur. Il y a des matchs, t'as pas le droit de te louper.
Je suis d'accord. Mais je veux dire que par rapport au fait qu'il l'ait encore en tête, mais il le gardera en tête toute sa vie. Ce match-là, c'est pas parce que.
Ouais,
ça fait
mais encore une fois, Willy, c'est plus facile de taper. Mais je veux dire par là que c'est plus facile de taper sur l'arbitre que sur son effectif, par exemple.
Je suis à 1000% d'accord, mais si un jour t'as du temps à perdre, Lionel, regarde de nouveau le match.
Moi, quand c'est un match comme ça, je le regarde pas deux fois. Déjà une fois, j'ai eu du mal. Alors deuxième fois,
ça m'est arrivé de le regarder de nouveau après coup, avec tout le côté émotion en moins. Donc tout le côté, moi aussi, j'étais comme un fou devant ma télé. Donc une fois que t'enlèves ce côté émotion, que tu regardes simplement le match et les faits de jeu. Je suis d'accord à 100% avec Emery quand il dit l'arbitre, ça a été une honte. Voilà, ça a été tout simplement une honte.
Il n'a pas aidé. Ce que dit Lionel, c'est qu'il n'y a pas eu que ça. Merci, messieurs. Merci, coach. Merci, Lionel. Merci, Willy. Vous avez été brillants. On doit malheureusement se laisser. Demain, l'after sera de retour, évidemment, à partir de 22h. Et puis, n'oubliez pas le RMC Revival dans quelques instants. Les informations. Très bonne soirée. N'oubliez pas que le football n'est pas une question de vie ou de mort. C'est beaucoup plus important que ça.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.